Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et nous sommes le 22 novembre 21. Vous êtes à l'antenne de Canal M et c'est Sans détour. Aujourd'hui, j'aurai comme invité M. André Cloutier, élu au conseil municipal de Saint-Joseph-de-Coleraine. Dans la région de Chaudière-Appalaches, les problèmes là-bas, c'est le transport adapté. M. Cloutier a de la difficulté à revenir du conseil municipal. Il va nous en parler, une situation un peu aberrante. On va parler aussi de travailleurs autonomes et de travail d'entrepreneuriat avec Josanne Lafrenière, agente de projet chez Sphère, soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi. Nous aurons aussi Marie-Chantal Lepage, chef, qui non seulement est une chef réputée, mais également est atteinte de diabète de type 1. Et on va parler avec elle de nutrition et comment poursuivre une telle carrière dans la restauration. Tout ça à Sans détour! Monsieur André Cloutier, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Bon, je suis content de vous parler, Monsieur Cloutier. Vous êtes un élu municipal à Saint-Joseph-de-Coleraine. Ça, c'est dans la Chaudière-Appalaches. C'est pas tellement loin de Thetford, je pense.
C'est à peu près à 15 km de Thetford.
Oui, puis c'est un petit patelin. Il y a combien d'habitants à Saint-Joseph?
À Saint-Joseph, on est d'habitants, on est 1700.
1700 habitants, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un conseil municipal actif. Je pense que c'est votre deuxième mandat.
Oui, c'est mon deuxième mandat. J'ai été réélu par la population le 7 novembre dernier.
Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est, je dirais, le cri d'alarme que vous avez lancé il y a une dizaine de jours. Avec votre réélection, le sujet redevient d'actualité. Vous avez de la difficulté à revenir du conseil municipal le soir. Parlez-nous-en un peu.
Oui, disons que avant que la politique change du transport adapté, quand on rentrait à 25 heures le soir de la réunion, on était obligé de me sortir qu'importe l'heure, 8h30, 9h. Bon, puis vu que les réunions commençaient à 5 heures, ça c'est la municipalité, les conseils, les membres du conseil qui avaient accepté de me donner de m'accommoder, comme on pourrait dire, là, me donner une chance pour assister. Et puis on commençait les réunions à 5 heures. Et puis là, depuis le 1er janvier 2021, la ville mandataire qui est la région, la municipalité de Thetford-Maine, a changé le règlement. Le transport finit à 6 heures.
Pile. Parce que il faut bien expliquer à nos auditeurs, et je m'excuse si je ne l'ai pas fait d'entrée de jeu, pour moi, ça semblait évident parce que je connais un peu votre histoire. C'est de dire que vous êtes en situation d'handicap, vous vous déplacez avec un fauteuil roulant.
Un fauteuil roulant manuel.
Exact.
Moi, je suis quadriplégique. Puis c'est ça. Comme je peux rentrer à l'hôtel de ville pour 6h moins quart, les réunions se finissent à 9h, mais j'ai pas de retour à la maison.
C'est ça, parce qu'avant, s'il faisait un aller en transport adapté avant 18h, le service était assuré pour le retour, même si c'était en soirée.
Mais avant 5h.
Il fallait que ce soit avant 5, je comprends.
5 heures moins quart, parce que le transport finissait à 5 heures.
OK. Alors là, vous avez un transport pour vous rendre à l'hôtel de ville à 18 heures?
Oui.
Mais vous êtes pris pour revenir par vos propres moyens, puis ça, c'est pas évident, là.
Non. Ça, lundi passé, on avait une réunion publique, et puis on a fini à 9 heures moins quart, puis c'est mon voisin qui est une bonne âme charitable, un bon monsieur, qui vient me chercher. Moi, quand j'ai terminé, je l'appelle. Il vient me chercher, puis j'ai 1 kilomètre à venir chez nous.
Bon, mais
puis lundi passé, il mouillait, puis...
Oui, il faisait pas beau, c'est vrai.
J'étais tout trempé, puis lui aussi. On voudrait pas...
Ça n'a pas de bon sens que votre voisin, comme vous dites, est une personne... bien serviable, puis tout le crédit lui revient, mais c'est pas normal que quelqu'un en situation d'handicap ait besoin de compter sur son voisin serviable, point.
Non, c'est pas... En 2021, là, c'est pas comprenable, seulement.
Exact. Parce que là, évidemment, votre situation est plus spectaculaire parce que vous êtes membre du conseil municipal de votre ville, mais il y a beaucoup d'autres personnes en situation de handicap qui ont peut-être sont peut-être moins publiquement reconnues, qui ont le même souci. C'est comme si après 18 heures, on n'a plus le droit de sortir de chez soi.
Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Les personnes handicapées qui veulent être intégrées à la, c'est comme on dit, le social, tout ça, mm-hmm. là. Moi, c'est pas pour aller manger au restaurant, puis ni pour aller faire du sport, là. C'est pour un job, c'est être conseiller oui. municipal.
Exact. Puis même si c'était pour aller voir des amis, puis faire du sport, faudrait aussi que vous puissiez avoir le droit de vous déplacer, là. C'est pas parce que vous êtes en situation de handicap qu'il y a un couvre-feu qui s'applique à votre situation. C'est la ville de Thetford qui gère le transport adapté dans toute la région, donc.
Oui, on est 19 municipalités dans le secteur sud.
Mm-hmm.
Puis toutes les municipalités payent une quote-part
okay.
pour le transport adapté. Comme nous, à la municipalité, on paye 2,51 par citoyen.
OK. Donc, ça revient quand même... Vous payez votre part, si je peux dire, dans le service de transport adapté. Et comme ça, toute la région de Thetford, est-ce que c'est juste à Thetford ou c'est une directive du ministère des Transports? D'où ça vient? Derrière quoi est-ce que Thetford s'est placé pour justifier cette décision-là?
Ben, ils disent qu'ils donnent 35 heures semaine. Ils en font beaucoup.
Mm-hmm.
Mais c'est un minimum.
Oui, je comprends. Puis donc, il serait possible pour la ville de Thetford de renverser la décision qui a été prise en janvier passé.
Oui, s'ils changent leur règlement, c'est chose possible. Mm-hmm. Il s'agit juste d'avoir juste une bonne volonté
okay.
de vouloir là, faire la pratique.
Parce que quand le règlement a été adopté à la ville où pour Thetford et toute la région, est-ce que ça a été possible pour vous de soulever votre problématique ou celle de d'autres personnes dans la même situation?
Non, j'avais soulevé ma problématique, moi.
Mm-hmm.
Et puis, ils n'ont jamais voulu adhérer à ma demande.
OK.
Mais toutes les municipalités payent le 2,51.
Mm-hmm. OK. Et il y a combien de gens dans votre région qui utilisent le transport adapté? Vous n'êtes pas le seul.
Non, on nous dit au transport adapté qu'on est 25, mais moi, je peux vous assurer qu'on n'est pas 25 dans la municipalité de Coleraine.
OK. Ah,
et on n'est okay. pas capable de savoir, là, vraiment, il y en a 2, il y en a 5, il y en a 15. On ne peut pas le savoir.
OK. Mais en tout cas, il y en existe un, puis c'est vous, ça c'est sûr.
C'est sûr.
ça, c'est incontournable. Est-ce que vous avez porté cette situation-là à un autre niveau? Est-ce que vous avez passé au niveau, je dirais, supérieur pour essayer de faire entendre votre cause?
Ben moi, j'ai déjà parlé à monsieur le préfet de la MRC, qui est monsieur...
Oui.
Vachon.
Mm-hmm.
Et puis, il m'a dit que ça ne relevait pas de la MRC.
Ah, OK.
Donc, c'est pas la MRC qui gère le transport adapté. C'est la région la municipalité de Tetford.
OK, d'accord. Puis eux sont
pas... Dans les autres municipalités, mm-hmm. c'est dans les autres régions, c'est beaucoup les MRC qui gèrent les transports.
Oui, exact. J'ai été un peu surpris quand j'ai lu ça en détail parce que la première idée qui m'est venue, c'était que c'était du ressort de la MRC. Le fait que ce soit la ville de Thetford, bien, soit. Mais est-ce qu'il y a un dialogue avec M. Brousseau, le maire de Thetford, ou...
Ben, M. Brousseau n'a pas voulu faire de commentaires ou
okay.
au reportage de M. Lavoie de Radio-Canada.
OK.
Il a juste mis un communiqué à TVA, comme de quoi que il m'a dit souvent que c'était impossible de faire une exception.
OK.
Mais il faut toujours penser qu'on est en 2021.
Oui, oui. Puis, je pourrais aussi... là, je suis pas dans vos souliers, mais à votre place, puis c'est pas... Je suis pas de la région Chaudière-Appalaches, mais je pense que chacun devient une exception si ça devient impossible de sortir de chez soi après 18 heures. Hein?
C'est ça.
Il n'y a pas juste M. Cloutier, il y a d'autres personnes qui ont besoin du même service. Mm-hmm. Puis le fait qu'à 18 heures, le guichet se ferme, ça fait, comment je dirais ça?
C'est le seul service qu'ils donnent après 18 heures.
Oui.
C'est que si moi j'ai un rendez-vous à l'hôpital, disons, à 4 heures de l'après-midi,
mm-hmm.
et puis le temps de passer l'examen, puis
okay.
voir le médecin, puis on sait qu'à l'hôpital, quand les ambulances arrivent, c'est là les urgences.
Oui.
Les médecins, ils vont. Et donc, moi, j'avais déjà posé la question. Si moi, je passe mon examen, tout ça, puis je vois le médecin à 6h15, 6h30, 7h15,
mm-hmm.
je fais quoi pour me revenir chez nous?
OK.
Mais là, ils m'ont dit, bien, M. Loutier, quand vous appelez à l'hôpital, c'est faut vous le dites que vous avez un transport.
OK.
Mais là, je n'ai pas parlé, mais quelques semaines après, on a eu un email comme de quoi que les seuls retours sur appel
mm-hmm.
étaient selon des médicaux.
OK. D'accord.
Fait que là, ils ont changé d'avis après avoir posé la question.
Oh, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de marge, mais... C'est pas clair où est-ce que ça se situe. Je pense que vous avez eu une plainte qui a été formulée à la Commission des droits de la personne là-dessus.
Oui, ça là-dessus, j'ai fait une plainte là-bas.
Mm-hmm.
Et puis, en même temps, c'est Mme Madèle Liliane,
oui.
la moelle épinière de la Motricité Québec.
Oui, exact.
Qui sont dans mon dossier aussi. Mme Isabelle Robert, qui est l'Office des personnes handicapées
oui.
Québec, qui sont là-dedans aussi.
Parce que le fait que ça a été diffusé dans les médias, votre situation qui est inacceptable, est-ce que ça a fait que d'autres personnes qui vivent des choses semblables dans votre région ou ailleurs se sont reconnues là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont communiqué soit avec Motricité Québec ou avec l'OPHQ ou avec vous-même en disant « Hey, ce que vous avez dit, M. Cloutier, ça me rejoint parce que moi aussi j'ai ce problème-là ».
Ben, Motricité Québec, madame, puis l'Office des personnes handicapées, je ne sais pas, mais moi, dans mes emails,
mm-hmm.
si vous verriez depuis lundi, les emails que j'ai reçus, là,
oui.
que de continuer, de ne pas lâcher, que c'est pas normal aujourd'hui d'être arrangé comme ça,
mm-hmm.
pour avoir plus de services, et puis, c'est pas correct.
Ben ça, je suis d'accord avec vous. Donc, vous n'êtes pas le seul. Votre intervention publique a permis à d'autres personnes aussi de se manifester, ainsi de suite.
Ça vient de toutes les régions. Là.
Oui, ça, je suis sûr.
Ils ont pris mon email d'un ami, je ne sais pas, là, mais ça vient de partout.
Bon, ben on souhaite que votre... Je sais que vous êtes un peu comme celui qui est en avant de la parade avec le drapeau rouge, là, mais vous n'êtes pas tout seul.
Non, moi, ce qui est la différence avec d'autres, c'est que moi, j'ai une voix.
Exact, tout à fait. Comme élu municipal, vous pouvez porter votre cause un petit peu plus sur la place publique. Exactement. Ben, M. André Cloutier, élu à Saint-Joseph-de-Colerain, j'aimerais vous remercier d'avoir été là. Puis, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans une situation similaire, là, comme on dit, élevez votre voix un peu de la même manière. Bien, Monsieur Cloutier, je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci.
piochait pour une poignée de scène. Grand-père piochait pour une poignée de scène. 20 ans pour le CN. Mais l'histoire d'un cheminot, ça se termine toujours un peu trop tôt. Ça se termine toujours un peu trop tôt. Travaille dur de ses bras, grand-père travaille dur de ses bras. Le train s'en venait, mais il voyait pas. L'histoire d'un cheminot, ça se termine toujours un peu trop tôt. Ça se termine toujours un peu trop tôt.
Travailleurs autonomes en situation de handicap, comme tous les travailleurs autonomes ou toute personne qui se lance en affaires avec son propre projet, ont besoin d'accompagnement dans le dédale des formes de soutien gouvernementaux. Mais évidemment, c'est encore plus vrai pour les personnes, les travailleurs autonomes en situation de handicap, parce que là, il y a des questions logistiques supplémentaires, mais il peut aussi y avoir des formes d'autres formes de soutien à leur entreprise. Et il existe un organisme à but non lucratif dont le nom est Sphère pour soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi. Et le service s'adresse aux personnes vivant avec une condition physique, mentale ou intellectuelle qui les freine professionnellement. Alors, dans ce sens-là, il y a tout un bassin de personnes qui sont prêtes à intervenir dans le domaine économique et à créer de la richesse. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Mme Josanne Lafrenière, qui est agente de projet chez Sphère. Bonjour, Mme Lafrenière.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Et vous-même?
Ça va bien, je vous remercie. Alors, d'abord, juste reculer un peu, puis nous parler de d'où ça vient, Sphère.
En fait, Sphère, qui veut dire, c'est l'abréviation de soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi, mm-hmm. Ben, sa mission, en fait, c'est de faciliter l'accès à l'emploi aux personnes en situation d'handicap professionnel, mm-hmm. donc résultant d'une condition là, physique, mentale ou intellectuelle, donc peu importe le handicap, en fait. Mm-hmm.
Et ça, c'est un organisme à but non lucratif. Votre financement vient de quelle source?
Alors, ça fait 20 ans qu'on existe et puis au départ, le financement était du gouvernement fédéral. Mm-hmm. Donc, à l'origine, c'était nous, on était comme mandatés pour gérer le fonds d'intégration à la personne handicapée, pardon. Mm-hmm. Et donc maintenant, depuis tout récemment, l'année passée, en fait, ce fonds-là a été transféré au provincial.
Okay.
Donc, c'est maintenant Service Québec là, qui va faire la gestion de ces argents-là, si on veut.
Mm-hmm. Et je parlais d'entrée de jeu, entre autres, aux personnes qui sont des travailleurs autonomes.
Oui.
Parce que leurs besoins sont différents des gens qui s'intègrent à une entreprise, là, physiquement, on parlait de télétravail. Les travailleurs autonomes, le matin, ils se réveillent, là, puis ils sont tout seuls au monde, si je peux
Exactement.
Dire.
Exactement. Oui, c'est très différent, effectivement. Donc, nous, grâce à une approche là, vraiment de collaboration avec les différents partenaires terrain, mm-hmm. ben, on les accompagne dans le développement de leur projet d'affaires, effectivement.
Et parce que quand d'abord on parle d'un projet d'affaires, il s'agit en tout début d'avoir une idée de ce qu'on veut faire. Il faut avoir un modèle. Il faut analyser le marché auquel on s'adresse, le service ou le produit qu'on veut offrir. Est-ce que vous les aidez dans cette démarche-là?
Bien, la plupart du temps, c'est bien certain que quand ils font appel à nos services, ils sont rendus pas mal prêts. Mm-hmm. Donc, la porte d'entrée, dans le fond, là, c'est vraiment de contacter une organisation d'employabilité pour les personnes handicapées. Donc, nos partenaires privilégiés, si on veut, c'est les CEMO, les services spécialisés de main-d'œuvre, mais tout autre organisme qui vient en aide aux personnes pour l'emploi, aux personnes handicapées. Donc, en passant par eux, c'est là qu'ils vont avoir une première approche où on va pouvoir d'abord et avant tout valider l'admissibilité à nos programmes. D'accord. Mais effectivement, on suggère d'avoir fait, par exemple, le cours lancement d'entreprise. C'est important d'être quand même assez préparé. Puis nous, ben, vu qu'on a juste un an d'intervention avec les personnes, ben, ils sont pas mal prêts là, quand ils font appel à nous. Donc, l'idée a déjà mûri et tout ça, il faut qu'ils soient capables de présenter un petit peu leur budget.
D'articuler leur projet, puis que ça, entre guillemets, ça tient la route, si on peut dire.
Exactement, oui, tout à fait. Mais on va les aider aussi, nous, de notre côté, pour procéder à l'analyse. Par exemple, on en fait une étude de marché qu'on assume là, entièrement. Donc, on fait déjà là, une première évaluation du secteur d'activité. D'accord. Comme ça, ça nous permet de travailler vers l'analyse de la demande, mais sans qu'il y ait des attentes indues parce qu'il pourrait, tu sais, à un moment donné, on avait les réponses juste à la fin du processus complètement, donc c'était un peu décourageant, si on veut. Maintenant, on procède avec la mini-étude de marché en tout début de processus de demande. Et après ça, on accompagne les personnes donc, dans l'analyse de la demande de soutien.
Quand vous parlez de la demande de soutien, c'est un soutien financier, logistique, ça prend quelle forme?
Ben exactement.
Ou ça peut prendre quelle forme? Parce qu'il faut se qualifier, là, oui.
Oui, c'est ça. Et puis, une fois qu'on est qualifié, ben là, ça varie. Hein, c'est au cas par cas. Mais il y a plusieurs mesures de soutien qu'on offre. Ça peut être de l'équipement adapté, ça peut être un coût de subsistance là, hebdomadaire, effectivement, financier, mais ça peut être aussi simplement une formation d'appoint, ça peut être au niveau du transport, une aide à ce niveau-là pour se déplacer, par exemple, vers une formation, justement, ou un soutien là, de partenaire, par exemple. Mm-hmm. Ça peut être des honoraires professionnels pour avoir accès à un service de marketing web, par exemple. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont sur le web. Donc, c'est différentes mesures qu'on offre, effectivement.
Mais, il me semble que tout à l'heure, vous avez dit que votre soutien serait pour un an.
Oui, alors c'est l'intervention maximum, le 12 mois là, qu'on offre. Peu importe le type de mesure, là, mais c'est un an, 12 mois.
D'accord. Quelles sortes de projets vous retrouvez sur votre table à dessin? Est-ce que la pandémie a changé un peu l'approche des travailleurs autonomes? Ça doit, parce que déjà, ça a changé la façon que tous nous travaillons. Mais encore, quelles sortes de projets on retrouve dans vos cartons?
Oui, effectivement, il y a eu une certaine influence. Je vous dirais que c'est difficile d'en prendre vraiment l'ampleur actuellement. Mais c'est très varié les projets avec lesquels on travaille. Ça peut être, ma foi, entretien, réparation, d'électroménager. Ça peut être du coaching, la médiation juridique. Ça peut être la confection, la réalisation de meubles et ébénisteries. C'est très varié, là. Donc, parfois à domicile, parfois pignon sur rue, parfois en ligne. C'est très, très varié, là, les projets.
C'est aussi varié que l'imagination de votre clientèle, hein?
On peut
dire ça. Puis aussi, selon les régions, les besoins que les gens pressentent dans leur communauté, qui sont prêts à essayer d'investir pour répondre à ces besoins-là. Est-ce que vous avez, après quelques années, des succès à nous relater, des entreprises auxquelles vous avez donné un coup de pouce au départ, qui maintenant sont solides?
Ah oui, bien sûr. Certains d'entre eux gardent contact, nous donnent des nouvelles. Donc, je pense entre autres à une entreprise qui s'appelle les Sacs du Temps, en Montérégie. Mm-hmm. Je pense aussi à... mon Dieu, attendez voir. Oui, une pâtisserie artisanale sur Montréal.
Okay.
Station gourmande. Mm-hmm. Oui, il y a plusieurs exemples qui sont toujours en activité et on en est réjouis, là. Oui.
Souvent, les personnes, est-ce que c'est peut-être une opinion, mais est-ce que je me trompe en disant que souvent, parfois, les personnes qui vivent en situation d'handicap vont avoir de la difficulté à s'arrimer aux programmes réguliers de soutien qui sont offerts aux travailleurs autonomes? Est-ce que parfois, leur situation d'handicap fait en sorte qu'il y a des critères auxquels ils ne peuvent pas répondre?
Ben oui, tout à fait, hein, mm-hmm. que ce soit au niveau du nombre d'heures qu'on peut consacrer à l'activité de travail là, mm-hmm. par semaine, ben c'est justement ça. Nous, on leur demande de quand même vérifier tous les programmes provinciaux accessibles, donc entre mm-hmm. autres le soutien aux travailleurs autonomes de Service Québec. Puis, une fois qu'ils reçoivent un refus, probablement parce que le nombre d'heures, des fois, on ne peut pas faire un 35 heures avec certaines limitations, ou alors c'est le secteur de l'activité, bien là, ils peuvent se tourner vers nous.
D'accord.
On vient collaborer, on vient, disons, là, en collaboration avec les programmes existants là, pour éviter justement du dédoublement, mais on c'est possible de combiner le soutien là, d'une certaine façon, effectivement.
Puis on parlait des critères d'admission parce que votre soutien n'est pas acquis d'avance. Ce n'est pas tout le monde qui s'adresse à vous qui va nécessairement avoir droit à un soutien. Et ce soutien-là peut être assez variable. Pouvez-vous nous élaborer un peu les critères d'évaluation que vous utilisez pour éviter que les gens... Un, pour que ceux qui vous s'adressent à vous s'adressent au bon organisme ou éviter les déconvenus. À quoi est-ce que vous vous attendez quand vous voyez un projet?
Bien, d'abord et avant tout, là, c'est bien évident, là, être en mesure de travailler au Canada, etc. Là, la base mm-hmm. un peu là, pour l'emploi. Puis ensuite, pour recevoir dans le fond un projet, bien, il faut que ce soit faisable et viable. Mm-hmm. Hein? C'est ça qui va faire partie de notre analyse. Parallèlement à ça, il y a des considérations aussi d'enveloppes budgétaires disponibles qui sont à considérer parfois.
Oui.
S'il y a un refus, ben c'est pas nécessairement en lien avec la personne ou son projet mm-hmm. et ou son projet, mais plutôt des considérations plutôt techniques de notre côté, si
d'accord.
les fonds sont disponibles, si, etc. Donc, oui, certains critères disponibles, entre autres, en ligne sur notre site web. Et sinon, de recevoir le projet, là, il faut que ce soit quelque chose qui soit pas, là, par exemple, là, de la loterie ou des
oui,
choses
ça,
comme ça.
Oui. Donc, il faut que ça tienne. Tout à fait.
Oui, exactement. Là.
Bon. Ben, Madame Lafrenière, je vous remercie beaucoup.
Ben, je vous en prie, ça a été un plaisir.
D'accord. À bientôt.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
De la danse. Tour avec François Beauregard.
De retour, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Marie-Chantal Lepage. Bonjour Mme Lepage, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Ça va bien, merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes chef. Quand on dit chef, on veut dire vous êtes dans la restauration. Voilà, exactement.
Oui, tout à fait.
Alors, vous avez d'ailleurs une réputation bien établie dans votre domaine. Et mm-hmm. ce qui nous amène aujourd'hui, c'est que vous avez aussi une situation qui est un peu spéciale. Vous vivez avec un diabète de type 1.
Oui, en fait, mon histoire est un peu particulière. Moi, en 2016, on a découvert une pierre dans ma queue de pancréas.
Mm-hmm.
Donc, il n'y avait pas d'autre choix que d'enlever la queue du pancréas. Donc, j'ai eu une opération assez difficile. Et par la suite, ben, soit que j'écoutais pas les médecins, mais là, je me suis rendu compte que là, il fallait que je me donne de l'insuline. 3 à 4 fois par jour.
Ouh, okay.
Que je prenne chose que je n'avais pas compris avant l'opération, mais enfin.
En vous réveillant, vous avez eu cette mauvaise surprise, voilà.
Ben, quelques jours après l'opération, ben, là, ils sont arrivés, puis on dit, bon, ben là, c'est voilà comment ça fonctionne, pour prendre votre glycémie au bout du doigt, rentrer une aiguille, mettre ça sur une petite languette, comme on voit
oui.
beaucoup à la télévision.
Oui, c'est vrai.
Et je devais m'injecter de l'insuline 4 fois par jour. Donc, ça a comme changé un peu mon rythme de vie, si je peux dire, ma vie en général. parce que comme vous savez peut-être, les chefs, on pense qu'on mange à des heures fixes et qu'on mange bien, mais bien
c'est
souvent.
Pas tout à fait juste. Je connais des gens qui sont dans le même domaine, Madame Lepage, puis je sais que vous mangez quand vous pouvez. Et vous allez, ce ne sera pas nécessairement évident d'avoir une alimentation équilibrée. Puis là, maintenant, avec un diagnostic de diabète de type 1, s'il y a quelque chose d'important, c'est de surveiller ce que vous mangez.
Tout à fait.
Mais et à quelle heure?
Il faut avoir des repas à des heures régulières.
Mm-hmm.
Et il faut prendre des collations l'après-midi, le matin. Donc, il faut toujours surveiller son glucose, à quel niveau il est.
Mm-hmm.
Et moi, dans le fond, après avoir gobé tout ça après l'opération, je me dis, bon, ben là, j'ai comme pas le choix. C'est ça. Mais ce qui me dérangeait beaucoup, c'était pas de m'injecter l'insuline. C'était plutôt de me piquer le bout des doigts.
Oui, OK.
Puis, ça, là, pour moi, c'était la fin du monde. Mm-hmm. Je trouvais ça tellement difficile. Et bon, tu mets les doigts sensibles, cartonnés, puis le geste de le faire, rentrer une aiguille.
Ouais, le petit coup vif là pour que ça pique là. Ouais.
Ça, c'est quelque chose que je n'aimais pas, mais Dieu merci, maintenant la technologie. Vous savez que la technologie, elle avance beaucoup pour mm-hmm. le diabète. On est à 1,2 million personnes d'atteintes, toute forme de diabète, seulement au Québec.
Oui. Oh.
Alors, ça progresse vraiment à une vitesse folle. Et maintenant, il y a de la nouvelle technologie qui est là pour nous aider. Mais moi, maintenant, en tout cas, je suis sur le Dexcom G6. Puis ça a vraiment changé ma vie, parce que j'ai plus besoin de me piquer le bout des doigts.
Oui, je comprends. Puis il y a quelqu'un que je connais dans cette situation-là qui m'a dit la pire chose à faire, c'est de fermer les yeux parce qu'on a peur, parce que là, on pique à côté. Et ça, c'est pas mieux. Juste peut-être rappeler à nos auditeurs que le diabète de type 1, c'est moins fréquent que le diabète de type 2 dont on entend plus souvent parler et que dans ce cas-ci, le fait que vous étiez diagnostiqué assez tard, comme jeune cinquantaine, c'est peu fréquent parce que c'est souvent un diabète que l'on dépiste chez les enfants plutôt.
Tout à fait, enfant ou début de la vie adulte.
Mm-hmm.
Mais moi, il faut dire que j'ai un diabète, ils disent un diabète pancréatite, parce que moi, c'est à cause que il manque la moitié de mon organe du pancréas.
C'est ça qui a fait que votre insuline est rare, voilà.
Tout à fait. Des fois, il fonctionne, mais des fois, il est paresseux, il ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que je suis maintenant diabète pancréatite, mais de type 1, parce que je dois de donner l'insuline fréquemment.
Oui, parce que c'est ça, votre corps ne produit pas ou très peu d'insuline. Alors, c'est vous qui devez en injecter pour maintenir le taux à un niveau, adéquat. Quand, dans votre carrière de restauratrice, de chef, de créatrice, parce que la création fait partie de votre, votre profession, de votre art, comment est-ce que vous avez été capable d'équilibrer cette profession gustative avec un diabète de type 1?
Ben moi, pour la création, ça ne m'a pas très dérangé. Si je faisais la même chose que d'habitude, je créais mes plats, j'y goûtais.
Mm-hmm.
Ce qui était plus difficile, je vous dirais, c'est plus d'avoir une vie saine, d'avoir des repas à des heures. Parce que, Colin, quand tu es chef, le restaurant se remplit, qu'est-ce que tu fais? Tu cuisines, puis après le service, c'est là qu'on mange. Donc, ça fonctionne pas. Puis le stress aussi, le stress, c'est un ennemi du diabète, évidemment.
Oui.
Donc, moi, j'ai eu cette opération en 2016. J'étais au Musée des Beaux-Arts du Québec et j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat. Donc, j'ai fini au mois de mars 2020.
Mm-hmm.
Ça fait 40 ans que je fais de la restauration. Je me suis dit, ben là, OK, la bonne femme, là, t'en as, je pense que là, tu pourrais, après 40 ans de carrière, là, faire autre chose. Mais là, ce que je fais maintenant, c'est que je continue à faire de la cuisine. J'enseigne ce que j'ai appris dans des entreprises. Donc, je continue dans le même métier, mais une façon beaucoup moins stressante que d'avoir à gérer.
Vous avez trouvé une façon d'avoir un meilleur contrôle sur votre agenda et votre horaire quotidien.
Tout à fait.
Ça vous permet de gérer votre alimentation et de voir à ce que vous n'ayez pas des montagnes russes dans votre glycémie. Là. Mais est-ce que votre alimentation, est-ce que vous avez commencé à vous tourner du côté de gens qui, comme vous, vivaient avec un diabète? Est-ce que ça a influencé ce à quoi vous pensez quand vous pensez à la nourriture? Est-ce que vous allez donner des conseils qui sont à la population générale, mais aussi aux gens qui souffrent d'un diabète?
Oui, j'ai toujours eu une alimentation assez saine. Mm-hmm. Je suis pas une fille qui mange de la junk food. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Évidemment, ce qui change, c'est tu dois calculer tes glucides. Ça, chose que j'ai beaucoup de misère.
OK, d'accord.
Je suis pas très... j'ai très, beaucoup de misère avec ça, mais quelquefois, j'ai des rencontres avec des diététiciennes qui m'aident aussi là-dedans. Mais mon rôle à moi, c'est pour ça que j'avais accepté de parler du diabète, vu que c'est le mois du diabète. C'est surtout pour exact. Aider les gens qui apprennent ça, puis que ça change, ça change notre vie. Oui. Donc maintenant, je suis là pour dire, ben ça se peut, oui, ça se peut d'avoir une vie saine. La technologie, elle avance, c'est possible d'avoir une vie normale tout en étant diabétique.
Oui, tout à fait. Et ça, en fait, souvent, les gens qui ont des diagnostics de diabète, c'est pas nécessairement qu'ils menaient une vie qui était malsaine.
Non.
Parce que ça peut avoir des origines autres que simplement d'avoir passé son existence avec la malbouffe. C'est pas ça du tout, là.
Non. Écoutez, il y a plein de facteurs, mais tu sais, ça peut être héréditaire. Il y a plein de facteurs qui sont mis en cause pour le diabète. Et la recherche cherche des moyens, parce que moi, je me dis toujours, quand ça m'est arrivé, je me disais, en 2020, je peux pas croire, je pourrais pas prendre une pilule une fois par jour.
Pour régler ça, oui.
C'est correct. Mm-hmm. Vous comprenez? Mais la technologie, ben, les gens, la recherche est là, puis j'ai bien confiance que maintenant qu'on est rendu, qu'on n'a plus besoin de se piquer le bout des doigts, qu'on est rendu avec la technologie, que t'as juste à ouvrir ton téléphone, puis t'as ton taux de glycémie, ben je me dis, ben ça va continuer encore plus, puis ça va être encore meilleur pour les prochaines années.
Ça, c'est la technologie où on a comme une petite pastille attachée au bras, là?
C'est ça, c'est le Dexcom. T'as pas besoin de scanner, c'est relié avec ton téléphone intelligent, mm-hmm. et t'as juste à ouvrir ton téléphone, aller sur l'application, puis ça te dit tout de suite, là, quel taux de glucose que t'as. Mm-hmm. Et en plus, ce qui est extraordinaire, en tout cas dans mon cas, je faisais beaucoup d'hypoglycémie la nuit.
OK.
Et vous savez qu'en bas de 2, on peut tomber dans un coma, ça peut être fatal. Si on dort, moi, c'était ma crainte toujours.
C'est de ne pas vous réveiller, finalement.
Ben, c'est ça. C'était ma crainte. Mais avec cette merveilleux Dexcom G6-là, ben, il va m'avertir, il me prévient, attention.
Okay.
Tu vas tomber en hypoglycémie dans 20 minutes, une demi-heure.
Vous faites réveiller un petit peu d'avance pour vous donner le temps de vous réveiller adéquatement, puis de parer à ça, puis de grignoter quelque chose qui va vous remettre en équilibre.
C'est ça. Donc, pour moi, c'est comme mon GPS. Pour moi, ça a changé ma façon de vivre avec le diabète, parce que là, je peux vous dire que je me couche le soir, je suis en paix, je me dis, s'il se passe de quoi, G6 va m'avertir. Mm-hmm. Puis imaginez-vous, les jeunes enfants, il y a de plus en plus d'enfants aussi qui sont diabétiques.
Oui, oui.
Les parents qui utilisent cette même technologie-là que moi j'utilise, l'enfant est à l'école, puis eux, ils peuvent avoir le taux que son enfant a pendant qu'il est à l'école. C'est extraordinaire. Okay. C'est une sécurité vraiment pour les parents et même pour les grands, je dirais, parce que moi, ça a changé une partie de ma... Ça m'a donné confiance en me disant, Caroline, on peut vivre une vie normale avec le diabète.
Quand vous avez eu votre diagnostic au départ, là, il y a déjà de ça quelques années, est-ce qu'il y avait des ressources autour de vous pour vous aider à vivre avec le choc? Parce que quand on a un diagnostic, que ce soit un cancer, une perte de motricité ou quelque chose suite à un événement, un accident ou quelque chose, c'est un choc. Il faut faire un deuil, puis il faut accepter tout ça. Est-ce qu'il y avait des ressources autour de vous ou est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles aux personnes qui vivent le même cheminement que vous?
Tout à fait. Moi, j'ai une clinique qui m'a suivi de diabète ici à Québec, dans la ville de Québec, qui m'a suivi pendant des années. Mm-hmm. On s'appelait toutes les semaines, on vérifie mes taux, parce que le temps qu'on soit... Moi, je peux bien dire ça, balancer, on peut-tu dire ça, là, parce que le taux d'injection d'insuline est différent selon le cause que tu as, la glycémie que tu as. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai eu ce soutien pendant des années où on s'appelait une fois, deux fois par semaine pour ajuster mes doses jusqu'à temps qu'on arrive à un contrôle, du moins, à
une certaine constance, oui.
Mais là, maintenant, j'ai plus besoin d'avoir des communications avec les autres, puisque là, j'ai le Dexcom G6. Qui envoie toute l'information au centre de diabète. Donc, les gens, mais si supposons j'aurais des problèmes, là, ils sont là pour nous aider, pour, euh, pour vérifier nos taux. Ils vous appellent deux fois par semaine, trois fois s'il faut, d'accord, puis ils vous aident là-dedans.
Est-ce que il y a des activités? Si vous l'avez souligné tout à l'heure que c'était le mois du diabète en novembre, là. Et est-ce qu'il y a des activités auxquelles vous participez ou vous prêtez votre concours parce que vous savez que des gens peuvent en avoir besoin?
Ben écoutez, moi j'essaie de j'ai passé beaucoup d'entrevues. J'essaie mm-hmm. d'aider le diabète. Évidemment, on peut faire des dons. Des activités en tant que telles, j'en ai pas vu au mois de novembre. Là. Je suis désolée, je n'ai pas vu que, mm-hmm. qu'il y en avait, mais chose certaine, ce mois-ci, mois de novembre, le mois du diabète, le but premier, c'était d'en parler pour que le monde sache que
ça existe.
C'est clair, oui. Et en 2045, on prévoit qu'il va y avoir 750 millions de personnes dans le monde atteintes du diabète. Là,
c'est énorme.
Puis, juste au Québec, 1 200 000.
Oui.
Moi, je m'étais fait une image en disant un stade de football américain, ça contient 100 000 personnes.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'on met 12 stades de football
un à côté de l'autre. Oui.
L'image est forte. Hein, quand
oui,
même,
ça fait là, beaucoup ça de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et il ne faut pas banaliser ce que ça demande aux gens comme adaptation. Puis en même temps, de comprendre la situation. Je vous remercie beaucoup, Mme Lepage, d'avoir été avec nous, parce que c'est vrai que votre expérience n'est pas évidente, parce que non seulement vous avez eu un diagnostic brusque et tardif, mais en plus, il a fallu que vous adaptiez votre carrière, étant donné votre qui vous êtes, hein, à titre de chef. Alors, on a hâte de voir s'il y a d'autres personnes qui vont marcher dans vos souliers, comme on dit.
Oh, j'espère bien. J'ai bien confiance.
Ben, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. You got a pedestal and
Certain. Nous sommes de retour. Vous avez entendu Diana Ross qui interprétait une chanson écrite par les Bee Gees, Barry Morris Robin Gibb, en 1985. Ça a été repris un petit peu plus tard, à quelques reprises. Mais voilà, alors vous aurez peut-être cet air-là dans la tête pour le reste de la journée. Nous avons à notre compagnie Mme Christiane Campagna. Comment allez-vous, Mme Campagna?
Je vais très bien, M. Beauregard.
De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui?
Mais tout d'abord, Paris 2024, donc les Olympiques qui auront lieu à Paris, on nous promet 1000 taxis accessibles aux personnes utilisant un fauteuil roulant.
OK. Il y en a combien en ce moment? 0 ou 10 ou 100?
Malheureusement, l'article ne le mentionne pas. Aussi, une petite parenthèse éditoriale, c'est une nouvelle tirée de handicap.fr qui est un site spécialisé. Et pourtant, le vrai titre de l'article, moi je l'ai transformé, c'était « Des taxis accessibles aux fauteuils ».
Ouais, les fauteuils peuvent rentrer, mais pas les passagers. Alors, c'est comme une sorte de pick-up où est-ce qu'on range les fauteuils, là, puis...
J'ai trouvé ça... Je m'attendais pas à ce que... Okay. J'ai vu que j'arrivais sur un site spécialisé. Ça m'a surpris un petit peu.
Nous, les handicapés visuels, on est des cannes. Hein, c'est ça, c'est le fun. On est des cannes. Hein, c'est un peu réducteur.
Voilà. Donc, pour revenir... à la nouvelle, lors du comité interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, donc Jean Castex a promis 1000 taxis parisiens accessibles pour les personnes en fauteuil roulant via une prime dédiée. Et on veut que ces équipements-là soient pérennes par la suite. Afin de faciliter l'accès aux Jeux dans les meilleures conditions pour les personnes en situation de handicap, la flotte de taxis sera triplée pour atteindre 1000 taxis d'ici 2024. Donc, on ne sait pas de quel chiffre on part, mais on sait à quel chiffre on se rend.
Trois fois donne 1000, donc peut-être c'est quelques 300. Madame Campanelle, je voulais dire c'est que Paris 24, il y a beaucoup d'efforts. Enfin, il y a l'air d'avoir une bonne volonté qu'il faut souligner de la part des organisateurs. On parle aussi de comment le système de transport en commun semble s'adapter, ainsi de suite. Paris se veut une ville beaucoup plus accessible quand elle va accueillir le monde en 2024.
Oui, c'est jumelé avec un programme de subvention pour rendre les taxis électriques. Alors, quand vous recevez votre subvention pour recevoir le taxi électrique, vous recevez en même temps une subvention pour le rendre accessible.
Oh, OK.
Comme quoi, c'est pas des choses qui s'opposent. La sauvegarde de l'environnement et le développement de l'accessibilité.
Tout à fait.
Alors, ce qu'on veut, c'est évidemment, ben, comme on dit justement... renforcer l'héritage social de ces Jeux. Et une vingtaine des nouvelles annoncées concernaient les personnes en situation de handicap. D'accord. Augmenter leur accès à la pratique du sport, promouvoir les disciplines paralympiques, soutenir les athlètes de haut niveau ou encore assurer l'accessibilité des transports et des sites olympiques.
Voilà, ce sera un bel héritage.
Oui, tout à fait. Du côté des États-Unis, la FDA vient d'autoriser le premier traitement pour les enfants vivant avec l'achondroplasie, qui est une des principales causes du nanisme. Les autorités donc, ont annoncé pour la première fois un traitement qui vise à améliorer la croissance des enfants qui vivent avec cette condition. C'est une autorisation qui va répondre à un besoin médical pour plus de 10 000 enfants aux États-Unis. Le traitement est commercialisé par le laboratoire Biomarin sous le nom de Voxzogo et il s'administre sous la forme d'une injection sous-cutané une fois par jour. Alors, une autre condition où on devrait avoir des piqûres tous les jours.
Oui, oui.
Il s'agit de l'achondroplasie, d'une maladie génétique qui touche environ un enfant sur, on dit, de 15 000 à 40 000 naissances dans le monde. Alors, clairement, on manque de problèmes pour certains pays moins développés de chiffres exacts. Le traitement a été testé durant plus d'un an lors d'essais cliniques sur 121 participants âgés entre 5 et 14 ans. Certains ont reçu le biomarin, d'autres un placebo. Et en moyenne, les participants ayant reçu le traitement ont grandi de 1,7 cm de plus comparé à ceux... je pense pas qu'ils vont devenir l'équivalent des joueurs de basketball. Là.
Non, non, mais c'est...
Mais quand même, et c'était sur... c'était un an. Donc, si on dit 1,7 cm par année, quand même,
oui,
au bout du compte,
tout à fait.
Ben, ça peut faire une énorme différence.
Chez un enfant chez qui le traitement commence alors qu'il est assez jeune... puis ça peut aussi vouloir être une piste pour d'autres recherches si cette molécule-là semble être porteuse d'espoir.
Le traitement devrait être disponible aux États-Unis entre le milieu et la fin du mois de décembre. Il est déjà autorisé dans l'Union européenne depuis cet été. Il est également en cours d'examen au Japon, au Brésil et en Australie.
Ah, ben c'est sérieux.
Alors reste à savoir chez nous ce qui va arriver. On va peut-être s'informer. Peut-être que nos amis de l'Association québécoise des personnes de petite taille sont au courant
tout à fait.
Aussi. On s'informera.
Voilà.
Maintenant, on s'en va sur TikTok.
Ah, TikTok!
Bon, qui est déjà pas un média réseau
populaire
social.
Populaire ou, oui. Disons, on parle souvent de TikTok, mais pas pour les bonnes raisons.
Oui, et c'est un réseau que je fréquente, là, et c'est difficile pour l'accessibilité parce que souvent, ce sont de courtes vidéos et souvent, c'est la combinaison de ce qu'on voit et de ce qu'on entend qui fait la blague ou le message.
Exact.
Mais quand même, depuis un certain temps, il y a un système de voix synthèse. Et là, dans le cadre d'une promotion, Disney a prêté des personnages à TikTok pour donner ces voix-là à sa voix de synthèse qui décrivent les choses écrites.
Mais la voix de Donald Duck, mais c'est la voix de Donald Duck, on ne comprendra rien.
Ben, c'était plutôt des personnages plus contemporains.
Ah, okay,
parce que c'est pas tellement un réseau social pour les enfants, mais c'est plus comme...
Je comprends.
Parce qu'il faut savoir que Disney est propriétaire aussi de toute la filiale Star Wars. Il y avait notamment Chewbacca, Stitch de Lilo, tout ça. Mais, contrairement...
Ben, Chewbacca qui fait la description, je ne sais pas si je vais comprendre beaucoup plus que Donald Duck. Là.
Ben, c'est le timbre simplement qu'on avait donné à la voix de synthèse. Sauf que, contrairement à la voix de synthèse standard de TikTok, tout d'un coup, il y avait des termes qui étaient censurés. Il y a beaucoup de militantistes sur TikTok. Et là, des mots comme gay ou lesbienne ou queer, ben, il y avait un silence au moment où il aurait dû avoir ce mot-là, ce qui n'arrive pas normalement avec la voix de synthèse de TikTok.
Habituelle.
Bon, il y avait une façon de le contourner, il suffisait de jouer avec l'orthographe.
Mais est-ce que c'est une question technique ou c'est une décision éditoriale?
Ben évidemment, personne n'a voulu répondre à la question. Ça a été corrigé depuis, mais Disney est une entreprise qui est connu pour afficher un certain conservatisme là,
sur
les questions sociales.
Enfin, il faudrait s'interroger. Là. C'est comme
c'est intéressant.
Un drôle d'addon, comme on dit.
J'ai déjà écouté Sex and the City sur Ami. Et il y avait une personne... Ça devait être en vidéo description parce que la personne chuchotait ou même faisait juste mimer avec ses lèvres un terme un peu vulgaire. Et la vidéo description ne disait pas quel était le terme. On avait fait une petite périphrase. Donc, la personne non-voyante qui écoutait l'émission avait droit à un petit peu de censure aussi. On avait voulu édulcorer un peu la chose. Donc, c'est un phénomène qui existe malheureusement.
Ça passe entre les mains d'une autre personne, en plus des créateurs et des diffuseurs. Alors, ça crée une autre occasion de censure, voilà.
Surtout si, en plus, on parle d'une vidéo de description, d'une version française, d'une série américaine. C'est beaucoup de couches de filtres
s'ajouter. Ça fait beaucoup de choses, exact.
Je vous parle encore du film Eternals,
avec
personnage.
La super... c'est une héroïne?
Oui, une héroïne qui est afro-américaine et sourde. Elle s'exprime en langue des signes américaine. Et il y a eu une augmentation des recherches en ligne pour apprendre la langue des signes. Sur Google, les gens ont cherché langue des signes américaine pour débutants, 250% plus qu'avant. Depuis la sortie
est-ce que la langue des signes deviendrait une affaire cool?
Ben, peut-être, grâce à ce film-là. Évidemment, Lauren Ridloff, qui est l'actrice, est très heureuse de voir que son personnage a un tel impact. Il faut aussi noter que les co-stars de Ridloff ont tout appris la langue des signes américaine afin de pouvoir communiquer avec elle sur le plateau, mais aussi pour pouvoir, parce qu'ils avaient des choses à lui dire pendant le film.
Parce qu'il faut se coordonner sur le plateau, là. Il faut savoir où se positionner. Il y a beaucoup de temps passé à travailler pour le nombre de métrage véritable. Là. C'est toute une préparation, une scène.
Et c'est vraiment quelque chose qu'elle a apprécié aussi de la part donc, de ses comparses, d'avoir que eux, pour une fois, aient appris sa langue à elle. Et pour le film, ils ont dû créer toute une série de nouveaux gestes, en fait, qui n'existaient pas dans la langue des signes américaine.
Pour décrire des réalités mythiques de l'univers Marvel.
Exactement, pour nommer des personnages. Et ils ont fait affaire avec un consultant qui est, ça donne bien, le mari de Mme Ridloff, mais qui est aussi consultant pour d'autres films et séries américaines. Faut savoir aussi que les langues des signes en général... C'est des langues qui fonctionnent par l'usage, beaucoup plus que par des autorités, comme par exemple la langue française et l'Académie française ou le QLF. Ce qui fait que c'est plus facile de créer des nouvelles réalités. Comme ça se fait beaucoup plus rapidement parce que souvent, ce sont les usagers entre eux. On avait d'ailleurs déjà noté que le signe pour dire Trump aux États-Unis...
Oui, c'était le gros toupette orange,
n'est
non?
pas le même. Oui, c'est ça. C'est pas le même que vous soyez pro-Trump contre Trump.
Il y a des gens qui utilisent d'autres signes pour lui, puis ils sont, on n'en parlera pas parce qu'on fait de la censure. Voilà, sans blague. Merci beaucoup, Christiane Campagna, qui est notre fenêtre sur le monde, et Nicolas Wartman, qui... est un débrouillard à la mise en onde, parce qu'aujourd'hui, là, la balle rebondissait un petit peu partout. Alors, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine, lundi midi à Sans détour. C'est François Beauregard qui vous souhaite une bonne fin de journée.